Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90 exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.
Plan on flying? In order to board domestic flights, your driver's license or state-issued ID must be a real ID. Learn how to get your real ID today at tsa.gov/real ID or visit your local DMV.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène.
Et Mélanie. Allô.
Allô.
Bien, bravo Hélène, je tiens à te féliciter, t'as pas retenu ton souffle pendant que je faisais le décompte. La dernière fois, elle avait fait ça, il faut toujours que je fasse un décompte de 10 secondes, puis la dernière fois, elle avait retenu son souffle tout le long.
Oui, c'était le bonus.
C'était le bonus?
On commence en éclatant de rire, parce que je suis genre...
Bravo, t'as pas oublié de respirer aujourd'hui. Oui. Je suis très fière de toi, mon ami.
J'ai un peu pas de voix d'ailleurs, j'avais oublié de te le dire.
Mais, pourquoi?
J'étais un petit peu grippée cette semaine, j'ai comme juste perdu la voix.
T'as-tu fini d'être grippée?
Non.
On est tannés.
Non, moi aussi je suis tannée.
On est tannés. Enfant, mais c'est toi la garderie.
Ouais.
C'est moi qui raconte aujourd'hui, c'est correct. Mais là, on a des choses à dire avant.
Oui, on a un...
Merci.
Merci. Oui. Alors, merci à Horreur Québec qui a fait un top 5 des balados québécois de True Crime qui glace le sang. Puis, on est dedans. Of course.
Surprise.
Mais c'est vraiment une belle critique. Vraiment, là, ça m'a vraiment touchée en la lisant.
Ça paraît que c'est... C'est qui l'a écrit?
Amy.
Amy, merci Amy. Ça paraît que tu nous écoutes puis que... Je sais pas si elle écoute l'épisode, là, mais... Ça paraît qu'elle nous écoute vraiment puis qu'elle a fait une description. T'sais, c'est pas basé sur « j'ai écouté un épisode puis j'ai écrit une description ». Elle nous connaît. Puis elle c'est une très belle critique qu'on va publier sur nos réseaux sociaux, d'ailleurs.
Oui.
Fais-moi le penser après l'épisode, parce que je vais oublier.
Oui.
Moi, j'ai un crime de potin. Non, j'ai un Charlotte à faire, d'ailleurs.
OK, vas-y.
D'abord. Lisanne de Terrebonne, qui se autoproclame
mm-hmm.
maman exténuée de 4 ados.
4 ados?
Yep. Oh donc, je fais un petit shout-out à Coraline, 14 ans, qui nous a fait écouter à sa maman et c'est pour ça qu'elle nous écoute. Et allô, Coraline.
Oh, allô, Coraline.
D'ailleurs, elle a un mini potin sur Lucas Rocco Magnotta qui disait que c'est à cette époque-là, c'est sa sœur était agent enquêteur pour la police de Montréal. Puis qu'elle se partageait les cas en alternant les appels avec une autre collègue. Puis quand ils ont appelé pour Magnotta, l'autre, sa collègue, elle a dit « Ah, je vais le prendre. » Puis c'est elle qui a dû aller fouiller les sacs pour trouver les membres de la victime. Puis ça aurait pu être sa sœur. Thank God que je n'ai pas pris cet appel-là. Ça glace le sang.
OK, au début, j'ai comme eu un brain fart, puis j'ai pensé que tu disais que la sœur de Magnotta travaillait pour la police de Montréal.
Non! Oh my God! On va être dans les journaux, genre. Des filles de podcast qui réinventent l'histoire de Rocco Magnotta. Non, c'est pas ça que j'ai dit.
C'est oui.
Bonjour, la famille de Lisanne de Terrebonne. Et allô, Caroline.
Oui. Allô.
Coraline.
Coraline. Excuse, pardon. Tu l'as renommée.
Oui, je suis désolée.
Moi, j'ai un petit potin. C'est par rapport. Tu sais, dans l'histoire de Dino Bravo, là, j'avais mentionné que. La tante de Dino, elle s'était faite violer par Vic Cotronier. Puis après ça, elle l'a mariée. Ouais. C'était comme, genre, ça arrivait souvent dans les, dans les familles italiennes à l'époque. Mais il y a quelqu'un qui nous a écrit par rapport à ça, qui veut rester anonyme. Et qui dit, dans ma famille, j'ai un oncle, Jean-Guy, qui était vraiment coureur de jupons. Il couchait avec tout ce qui bouge. Un jour, il rencontre Georgia. Et la charme, il couche avec. Il la revoit quelques fois, mais il continue à courailler à gauche et à droite, sauf que Georgia est tombée enceinte.
Oh.
Ce que Jean-Guy ne savait pas, c'est que le papa de Georgia fait partie des hauts placés de la mafia italienne de Montréal. Il rend donc une petite visite à Jean-Guy avec ses hommes de main. Jean-Guy, avec sa petite réputation de courroyeux, il a dit à Jean-Guy, « Là, tu vas marier ma fille et tu vas la rendre heureuse. Si tu fais quoi que ce soit qui la blesse, ça va être la dernière chose que tu vas faire. » Eh bien, Jean-Guy a marié Georgia. Et ils ont eu une belle vie et ont maintenant enfants et petits-enfants. Et Jean-Guy n'a plus jamais couru la galipote.
Écoute, c'est une menace qui a bien tourné, finalement.
Mais oui, c'est ça. Finalement, ils ont
vécu heureux. Tu vas marier ma fille, OK.
Oui.
OK.
OK, mais effectivement, là, quand genre quelqu'un de la mafia vient de dire « Tu vas marier ma fille, tu vas la rendre heureuse. »
Moi, comme... je vais marier qui
oui,
tu
oui, monsieur.
Oui. OK. Est-ce que t'es prête?
Oui, j'ai aucune idée de ce que tu me racontes aujourd'hui.
Non, hein, je t'en ai pas parlé. C'est une histoire que je connaissais pas non plus. Maintenant qu'en ce moment-là, le titre n'a pas encore d'épisode parce que c'est toi qui donnes les titres aux épisodes.
Mm-hmm.
Fait que je peux pas dire...
Le titre.
Voilà. C'est une histoire qui s'est passée en Ontario. Puis un petit peu au Québec. Ça va comme si. Mes sources, le Law Times, le Canadian True Crime Podcast, que j'adore, CBC News, Windsor Star et Radio-Canada. J'ai vraiment la misère à parler aujourd'hui. Je suis craquée. Je vais me calmer. Carlos Rivera naît en 1981 au Salvador, peu après le début de la guerre civile du Salvador qui a eu lieu de 1979 à 1992. Lorsque Carlos atteint l'adolescence, la situation au pays est extrêmement dangereuse. La famille Rivera décide de fuir et de se réfugier au Guatemala, puis en Uruguay pour quelques années. En 1996, les Rivera immigrent au Canada. Carlos a maintenant 15 ans. Les Rivera s'installent dans la petite ville de La Salle, en Ontario. Pas ici.
Pas à Montréal? Non. Je savais pas qu'il y avait La Salle, Ontario.
Oui, tout près de la frontière américaine, juste à côté de Détroit. Malheureusement, les parents de Carlos, Carlos Senior et Maria, divorcent et Maria finit par se remarier puis déménage en Floride. Carlos Senior reste en Ontario avec ses quatre fils, Carlos Junior, Alvaro, Javier et Hugo. Carlos Junior est l'aîné de la famille et il s'occupe très bien de ses frères. En 1999, à l'âge de 18 ans, Carlos a deux emplois pour aider sa famille et il veut aussi ramasser des sous pour aller à l'école en or. Il travaille dans un commerce de détail et en hôtellerie à Windsor, à 20 minutes de La Salle. Il se trouve éventuellement aussi un autre emploi à temps partiel comme barman dans un bar gay, toujours à Windsor. À l'été 2007, Carlos a bientôt 26 ans, puis il vit sa petite vie tranquille, bien heureux. Il vit à La Salle, travaille au bar qui s'appelle The Tap, et il étudie en architecture au Collège Saint-Clair. Pour son anniversaire qui s'en vient, Carlos décide de s'offrir un billet d'avion pour aller visiter sa maman en Floride, de qui il est très proche, il parle tout le temps au téléphone, il aime beaucoup. Donc là, il téléphone à sa mère, puis il annonce la belle nouvelle. Il parle aussi de son nouvel emploi au bar The Tap, où il y a des danseurs nus. Le soir du 17 juillet 2007, Carlos travaille au The Tap, derrière le bar. C'est un mardi soir, pas super occupé. Il y a quand même un homme qui est assis au bar puis qui flirte avec Carlos pas mal toute la soirée. Les employés remarquent l'homme qui est dans la vingtaine, super grand, athlétique puis avec vraiment beaucoup de tatous sur les bras. Il est aussi fier de dire que c'est un soldat dans l'armée puis qui a servi en Afghanistan. L'homme en question demande à un employé s'il peut appliquer parce qu'il veut être danseur nu au bar. Le propriétaire du bar, qui s'appelle Eddie Anne, lui remet un formulaire de demande d'emploi. Mais l'homme, il prend le formulaire, mais il ne le remplit pas tout de suite, puis il promet de le rapporter le lendemain. Eddie, lui, le propriétaire, il n'a pas une bonne vibe avec le gars, fait qu'il sait très bien qu'il ne l'engagera pas, mais il dit « OK, fine ». Donc, l'homme reste quand même à jaser avec Carlos jusqu'à la fermeture du bar. Les deux hommes sont ensuite aperçus en train de quitter le bar ensemble dans la Honda Civic de Carlos. Le lendemain, Carlos il se présente pas à son chiffre du soir. Eddie l'appelle, sans réponse. Et là, Carlos, c'est un employé super fiable, puis c'est vraiment pas à son habitude de pas rentrer, surtout sans donner d'avis. Fait que là, quelques heures plus tard, Eddie a comme un mauvais feeling. Il décide d'appeler la police.
Hey, quand même, c'est vraiment un bon boss.
Ouais. Sur place, les policiers interrogent les employés du bar parce que c'est le dernier endroit où Carlos a été vu. Ils donnent une description super précise de l'homme qui était assis au bar toute la soirée la veille. Un soldat, 200 livres, 1m80, cheveux bruns rasés, yeux bruns, musclés, super tatoués. Avec toutes ces informations-là, les policiers savent déjà à qui ils ont affaire. Il s'agit de Jesse Imeson, 22 ans. Un fauteur de troubles bien connu des policiers.
OK.
Imeson, ils font une petite recherche et Imeson, il loue depuis quelques semaines une chambre dans une maison de relais. Une maison de relais, c'est un logement à vocation sociale pour des personnes en situation de précarité qui ont souvent connu l'itinérance ou des difficultés d'intégration dans un logement classique.
OK.
Les policiers s'y rendent, mais Imeson, il n'est pas là. Ils se rendent dans la chambre pour trouver des indices et là, en rentrant, il voit le corps partiellement nu de Carlos Rivera couché sur le lit recouvert d'une couverture, sans vie. Carlos a été étranglé avec une ceinture enroulée deux fois autour de son cou, puis il y a une blessure au visage. Il y a aussitôt une photo de Jesse Imeson qui est envoyée aux médias pour que le public aide la police à le retrouver. Il est aussi mentionné dans les médias qu'il pourrait être au volant d'une Honda Civic Argent 96, la voiture de Carlos.
Okay.
Je te raconte qui est Jesse Imeson.
Mais il me semble que quand tu veux commettre un meurtre, là, de genre passer la soirée au bord, de parler à tout le monde, de genre dire que tu veux travailler là, puis de te faire vraiment remarquer, c'est cave en tabarouette. Là.
C'est parce que c'était pas prévu.
OK.
Je te reviens.
OK.
Jesse Imeson naît en 1985. Comme si j'ai besoin de spécifier. C'est pas en 1800. Sorry. En 1985, à Amherstburg, en Ontario, à 35 minutes à peu près de Windsor. C'est l'aîné de trois enfants, puis son père travaille dans la construction. Imeson est décrit comme un bout en train, super joyeux, veut toujours s'amuser. Pourtant, Imeson est loin d'avoir eu une enfance facile. En juin 1995, lorsqu'il a 10 ans, son père, qui a 27 ans, se suicide. C'est malheureusement Imeson qui fait la découverte du corps de son père, qui est considéré comme son héros.
C'est vraiment horrible.
À la suite de cet événement-là, le comportement d'Imeson y dégringole. Il est incontrôlable. Sa relation avec sa mère est vraiment tumultueuse. Un an après la mort de son père, sa mère n'est plus capable, elle le place en famille d'accueil. Son frère et sa sœur restent à la maison avec sa mère, mais ils vont finir quelques années plus tard par aller vivre chez d'autres membres de leur famille. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Imeson est donc placé dans une famille à Leamington, à 40 minutes d'Amherstburg, mais ça prend juste quelques semaines avant qu'ils se débarrassent de lui parce qu'ils sont plus capables. Il est incontrôlable. Il est ensuite transféré dans un centre pour adolescents en difficulté qui s'appelle le Maryvale Children's Mental Health Treatment Center. C'est là que le comportement de Jesse Imeson, 11 ans, s'aggrave encore plus.
Aïe, il a juste 11 ans.
Ouais. Et là, il commence à consommer, à 11 ans, de la drogue, de l'alcool, en grande quantité. Il devient violent, puis agresse verbalement les autres adolescents du centre pour être sûr de se faire respecter. Donc, ils ont peur de lui. Après 6 mois à Maryvale, Imeson est envoyé dans une autre famille d'accueil. Puis, après ça, à partir de là, il enchaîne les familles d'accueil les unes après les autres. Personne ne veut de lui. À l'école secondaire, sa consommation d'alcool et de drogue ne fait qu'augmenter. Et en secondaire 5, il finit par abandonner l'école. À 18 ans, il fait des allers-retours au centre de détention du Sud-Ouest à Windsor, surtout pour vol ou possession d'objets volés. Il est connu pour deux choses à Imeson. Un, faire le party et deux, se faire tatouer.
Ah, deux passions.
Souvent, il fait les deux en même temps. Il va comme au bar, puis après ça, il s'en va souvent le même tattoo shop tout le temps. Puis apparemment, le propriétaire du tattoo shop, il dit qu'il était tellement incontrôlable puis agressif, il bougeait tout le temps, puis il était pas fin. Ils ont fini par le bannir du tattoo shop. C'est vraiment triste. Entre-temps, Imeson, il se fait une copine, dont on ignore le nom, qui tombe enceinte très rapidement. Imeson, il veut être présent pour sa copine et son bébé, donc il veut ramasser des sous. Mais là, il y a un casier judiciaire assez chargé, donc il n'y a personne qui veut l'engager. Et là, il décide donc de... J'ai aucune idée pourquoi, mais il se dit, je vais déménager à Whistler, en Colombie-Britannique.
Mm-hmm.
Je vais me trouver une job pour quelques mois avant que le bébé arrive. Je vais ramasser des sous, puis je vais revenir.
Okay.
Ce qui sonne comme un bon plan.
Ouais, correct.
Là-bas, il se trouve un emploi, mais il se trouve aussi une addiction à la cocaïne.
Ah!
Qui avait pas de besoin. Fait que là, on s'entend qu'il ne réussit pas à mettre de l'argent de côté.
Mm.
Le bébé naît et il revient en Ontario, mais là, il n'y a pas un sou en poche. Mais sa copine elle reste quand même avec lui.
Mm-hmm.
En novembre 2006, il est maintenant âgé de 21 ans et il commet un autre vol puis il est renvoyé en prison pour 6 mois. Après ça, quand il sort de là, au début de l'année 2007, il suit un programme de désintox de 40 jours à Windsor. Surprise, surprise, qui ne fonctionnera pas.
Mm-hmm.
Quelques mois plus tard, à l'été 2007, Hamilton, il se loue une chambre dans une maison de relais. Et c'est dans cette chambre-là que le corps de Carlos Rivera sera retrouvé quelques semaines plus tard.
Fait que rendu là, il était plus avec la...
Non, elle l'avait dompé.
Thank God. C'est bonne affaire pour elle.
Amicine puis la mère de son... Ah ben, c'était ma première, ma prochaine ligne. Amicine et la mère de son enfant finissent par se laisser pour la énième fois.
Okay.
Et comme on peut se l'imaginer, ils sombrent dans l'alcool et la drogue. Mais là, il a besoin d'argent parce que la cocaïne, ça coûte plus cher que le cannabis. C'était du cannabis qu'il prenait avant. Et là, il confie à son ami Nick qui a trouvé un bar gay dans lequel il pourrait aller travailler comme danseur nu puis faire la palette.
Mm-hmm.
De tap. Donc, Nick est surpris de cette idée parce que son ami, de un, il n'est pas gay. Puis de deux, il n'a jamais fait ça de la danse. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Fait que, bref, il est vraiment surpris, mais il le supporte quand même dans son plan. Il est comme, OK, d'un coup, ça marche.
Ouais, ouais.
Donc, ça nous ramène au soir du mardi 17 juillet 2007. Nick, c'est lui qui dépose Emerson au bar de tap où Carlos Rivera travaillait derrière le bar ce soir-là. Donc, on sait comment son arrivée au bar se passe. Emerson s'assoit au bar, jase avec Carlos, crouse-crouse, jase, fait une demande d'emploi, remplit pas, blablabla. Donc, on se rappelle que c'est ça, il remplit finalement pas le formulaire d'emploi et que le propriétaire a absolument aucune intention de l'engager. Mais c'est pas ça que Emerson a dit à son ami Nick. Donc, vers 1h du matin, Emerson y appelle Nick pour qu'il rejoigne puis qu'il amène la coke. Et là, il dit, je viens d'appliquer pour une job de danseur nu, j'ai été engagé, j'ai fait une danse puis j'ai déjà fait 80$. Tout ça, c'est pas vrai.
Fait
que là, il est super content puis là, il dit, hey, viens me rejoindre, non, ça va être le fun. Et son ami Nick est comme, non, man, t'as l'air trop avancé, ça me tente pas. Ce qui est réellement arrivé, c'est que le propriétaire du bar, il l'a raconté plus tard, c'est que Emerson, il s'est lui-même improvisé danseur à un moment donné dans le bar.
Oh.
Puis il est allé danser sur un poteau. Il a fait une petite danse, habillé.
Mm-hmm.
Puis, mais tu sais, en aucun cas, il a proposé un emploi, puis en aucun cas, il a fait de l'argent. Fait que c'est ça sa version de l'histoire.
OK.
Donc, Nick vient pas le rejoindre. Et là, Emerson, il continue à flirter avec le gars cute derrière le bar, qui est Carlos. Et là, on se rappelle que Emerson est toujours pas gay.
Ouais.
Fait qu'on comprend pas qu'est-ce qui se passe. La fermeture du bar arrive. Emerson et Carlos quittent le bar ensemble, se rendent dans la maison où habite présentement Emerson. Et là, à la maison, il y a un autre chambreur qui est là et qui est réveillé, qui s'appelle Doug. Doug.
Doug.
Les anglophones présentent. Moi, je vais l'appeler Doug.
Doug.
Et lui, il continue à faire la fête avec Emerson et Carlos. Ils boivent ensemble, prennent des photos et les photos, quand elles sont retrouvées, sur une des photos, on voit Emerson qui a le bras autour de Carlos, puis sa langue est sortie comme pointée vers le mamelon de Carlos.
OK.
Canadian True Crime a décrit comme de manière sexuelle.
OK.
Vers 6h du matin, Emerson emmène Carlos dormir dans sa chambre, Doug va dormir dans la sienne. C'est la dernière fois que Carlos est vu vivant.
Mm-hmm.
Donc, il tue Carlos. Après le meurtre de Carlos, Emerson est sous le choc, mais il est quand même conscient de ce qu'il vient de faire. Il sait que le corps de Carlos va être rapidement retrouvé parce qu'il sait qu'il était au bar, puis que tout le monde l'a vu, okay, puis qu'il y a l'auto et tout et tout. Fait que là, il fait « Oh, je dois m'enfuir. » Alors, toujours à bord de la Honda Civic argent de Carlos, Emerson, il conduit Puis là, il ne sait pas où aller, mais il conduit pendant 2h30 vers le nord. Et il arrive dans la paisible communauté de Grand Bend, en bordure du lac Huron. Qui a l'air vraiment cute, by the way.
Je connais pas.
C'est vraiment beau. À Missing, il se rend dans un bar pour prendre un verre, parce que là, c'est rendu le lendemain, comme tard, genre après-midi. Il fait la rencontre de deux jeunes femmes avec qui il fait la fête jusqu'à la fermeture du bar. Ensuite, il leur dit qu'il n'y a nulle part où dormir parce qu'il ne vient pas du coin. Et il y a une des deux filles de 19 ans qui ignore complètement qu'elle a affaire à un meurtrier fugitif. Elle propose à Amison de venir dormir chez ses parents à Exeter, qui est à une vingtaine de minutes du bord. Amison est content, il accepte, la jeune femme le conduit dans sa propre voiture à elle. Donc, la Honda Civic reste là.
OK.
Le lendemain, la jeune femme, grande parenthèse, toujours en vie.
OK, oui.
emmène Amison à la plage où il passe la journée. Et là, en soirée, il décide de sortir encore. Et pendant qu'ils sont au bord, le lendemain, c'est à ce moment-là que le corps de Carlos Rivera y est découvert. Mais ça, Amison, il ne sait pas encore. Il continue de faire la fête avec sa nouvelle amie. Et là, à la fin de la soirée, Amison, il retourne chez les parents de la jeune femme pour y passer la nuit. Le lendemain matin, la mère de la jeune femme, elle regarde les nouvelles à la télé. Elle fait le saut quand elle reconnaît l'homme qui apparaît sur son écran avec les mots, en gros, meurtrier fugitif.
Oh boy.
Et là, à ce moment-là, elle décide de ne pas appeler la police pour une raison qui échappe absolument tout le monde. Et elle va voir Amison puis elle lui dit juste, tu dois partir. Tu dois t'en aller de chez nous. That's it. Et là, la jeune femme de 19 ans, qui est quand même sous choc, mais elle embarque dans son auto, le meurtrier fugitif.
Mais là, elle sait pas.
Puis elle vole pas. Oui, elle sait.
OK, là, elle sait.
Là, elle sait. Oui, sa mère, elle y est dit. Elle est très au courant.
OK.
Elle embarque dans son auto.
Tu t'en vas, t'es un meurtrier, va-t'en.
Mais embarque dans un char avec ma fille de 19 ans, elle va aller te porter.
OK. Oui, non, je comprends pas.
Il n'y a personne qui comprend ça. Appelle la police.
Oui.
Appelle. D'ailleurs, ils vont beaucoup se faire persécuter après par le public. Ils sont comme, yo.
Ouais, c'était pas la bonne décision, malheureusement.
Fait que là, la fille de 19 ans embarque dans l'auto, embarque avec Amison. Puis là, apparemment que dans l'auto, il dit, oui, c'est vrai, je suis recherchée, mais je l'ai pas tué, le gars. Non. Fait que là, comme...
OK.
Je m'en fous. Débarque. Fait qu'elle drop. elle drop dans un champ, comme un peu plus loin de chez elle, mettons.
OK.
Et là, Amison, il est maintenant à pied, dans une campagne perdue. Fait qu'il marche pendant un bon moment. Il sait pas quoi faire. Et là, il aperçoit une grange. Il entre dans la grange. Puis, dans la grange, il y a, random, une arme semi-automatique de calibre 22. Okay. Il y a 200 munitions, puis un manteau. Fait que jackpot.
Jackpot pour un fugitif.
C'est ça. Ouais. C'est genre le kit du fugitif parfait. Tout pas, c'était pas prévu, là. Fait que là, il s'emporte de tout ça et il passe la nuit là. Le lendemain matin, la jeune femme de 19 ans, la jeune fille, elle regrette un peu de ne pas avoir appelé la police. Fait qu'elle appelle l'association Crime Stoppers. Crime Stoppers, c'est un organisme qui permet aux citoyens de signaler anonymement des informations sur des crimes pour aider la police à résoudre des enquêtes. Donc, elle leur raconte toute l'histoire, puis elle leur dit à quel endroit elle a déposé Amison. La police organise une fouille du champ des alentours, puis elle se rend au bord à Grand Bend, où il trouve la Honda Civic Argent 96 de Carlos Rivera. Donc là, on pense qu'on se rapproche d'Amison, mais sa cavale est loin d'être
terminée. OK.
Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull, Friday from 6 p.m. Eastern. Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90 exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.
À environ 15 minutes de Grand Bend se trouve le canton de Mount Carmel. C'est là qu'habitent Bill et Hélène Régier. Je le dis en français, okay? C'est sûrement Regier.
Okay.
Je veux dire Régier. Un couple de retraités mariés depuis plus de 50 ans qui sont bien connus et aimés de la communauté locale. Bill et Hélène vivent paisiblement dans leur petite ferme de moutons sur une terre de 50 hectares. Mmh. Moi, je savais pas c'était quoi 50 hectares. Je l'ai demandé à ChatGPT en terrain de football américain. Ouais. Ça voulait dire quoi? T'as-tu un guess?
Boy, je suis tellement poche dans cette affaire-là. C'est des maths et des dimensions.
Oui.
OK, je vais dire...
Combien de terrains de football américains?
6 terrains de football.
T'es fucking loin. 93.
Hein?
Ça a l'air.
Wow!
C'est okay. Ce que ChatGPT m'a dit. Là, si vous venez pas me martyriser, si... me martyriser. Don't come at me si c'est vraiment pas ça. C'est ChatGPT qui me dit que t'es 93.
Voilà, c'est pas notre faute. Nous, on est vraiment bon en calcul. C'est vraiment ChatGPT.
C'est vraiment ChatGPT. Bon. OK? Mm-hmm. Donc... Bill, lui, a travaillé toute sa vie pour son église catholique locale, puis il travaille en ce moment sur la restauration du toit de cette église-là. Hélène, elle, joue de l'orgue aux cérémonies religieuses à la même église. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Si oui, c'est vraiment cute.
Vraiment cute.
Ils ont aussi une très grande famille. Ils ont 6 enfants, 16 petits-enfants, puis 5 arrière-petits-enfants.
Oh.
Donc, le 22 juillet au soir, Bill et Hélène sont à London, en Ontario, chez un de leurs enfants. Et ils repartent après la soirée parce que leur fils Dan arrive en visite à la ferme le lendemain matin. Donc, eux, ce qu'ils savent pas, c'est que quand ils reviennent à la maison, sur leur terrain, ils ont une grange.
Avec un fugitif dedans.
Avec un fugitif dedans.
Qui est maintenant armé.
Qui se cache depuis 2-3 jours à peu près.
OK.
Donc là, ils rentrent à la maison et ils préparent l'arrivée de leur fils. Tout d'un coup, ils entendent une fenêtre qui se fracasse.
Et?
Ils vont voir ce qui se passe. Ils tombent face à face avec Jesse Armisen, armé.
Mm.
Donc là, Armisen pointe son fusil sur eux, puis il les oblige à descendre dans le sous-sol où il les attache sur la tuyauterie. Et là, sans avertir, puis pour absolument aucune maudite raison, il tire 4 fois sur Hélène.
Oh.
Est atteinte au menton, au cou, à l'épaule et à la poitrine.
Oh.
La pauvre femme de 73 ans tombe sur le sol, meurt sur le cou. Emerson Easton pointe ensuite son arme sur Bill, lui tire une balle dans la poitrine puis une autre dans la tempe. L'homme de 72 ans, qui était attaché par les mains, il était en position de Jésus sur la croix, il meurt debout au bout de son sang.
Horrible. Oh my God.
Pour aucune maudite raison. Ça me
il aurait pu les attacher, se prendre une coupe de sandwich puis s'en aller. Là,
quitter.
Genre, c'est ça?
Genre, il aurait rien fait. Là. Donc là, après ce carnage, il remonte. Donc, avant de partir, il vole le portefeuille de Bill, un peu de nourriture, des vêtements, des couteaux, puis les clés de leur camion, un GMC Sierra gris 2006. Puis il quitte. C'est Dan Régier, le lendemain midi, qui va trouver le corps de ses parents. Puis signaler à la police, parce qu'il s'en est en visite.
Mais oui.
Donc là, l'Ontario a maintenant 3 meurtres horribles à élucider. Mais là, est-ce qu'on peut lier le meurtre de Carlos Rivera à ceux des Régier?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Mais, heureusement, à la ferme des Régier, les enquêteurs trouvent des empreintes de chaussures Nike pour hommes de taille 12. Les mêmes empreintes qui ont été retrouvées dans la chambre d'Amison à Windsor.
Oh!
Bingo! Donc là, on peut officiellement lier les 3 meurtres.
Puis avec ce que... Là, s'ils ont l'info de Crime Stoppers qui dit qu'il a été droppé là,
exactement.
On peut faire le lien. Là.
Exactement. Il faut maintenant absolument arrêter Amison avant qu'il fasse d'autres victimes parce que là, il n'y a pas de sens.
Là,
Le public est donc mis au courant par les médias. Il y a une ligne téléphonique spéciale qui est mise sur pied pour toutes les informations qui peuvent être utiles à la capture d'Amison. Donc, au volant de la camionnette volée, Amison y conduit pendant presque 7 heures vers l'est.
Ben c'est chez nous.
Donc là, on est maintenant le 28 juillet 2007. Ça fait plus que 10 jours qu'Amison est en fuite. Il finit par traverser la frontière du Québec, puis il se rend dans le village de Portage du Fort en Outaouais. C'est un endroit boisé où il y a beaucoup de chalets. Fidèle à lui-même, il rentre par infraction dans un chalet.
Mm-hmm.
Puis, il prend tout ce dont il a besoin, des bières et des cigarettes.
Ah oui.
Puis, il s'en va. ce qu'il ne sait pas, c'est que le chalet dans lequel il vient d'entrer, c'est il appartient à Doug Young, un policier à la retraite.
Oh.
Donc là, quand il découvre que son chalet a été cambriolé, il enquête.
Mm-hmm.
C'est un policier. Il discute avec des voisins qui lui confirment qu'eux aussi ont été cambriolés. Oh. Puis le voleur dans les autres maisons a pris en général pas mal toute la même affaire, de la nourriture, de l'alcool, des cigarettes. Donc là, Doug, il appelle la police. Un autre Doug, c'est pas le même. Le 30 juillet, dans la région de Renfrew, qui est à 20 minutes de portage du fort, mais de retour en Ontario, le GMC Sierra Gris des Régiers est retrouvé dans un champ. Et là, dans le camion, il y a un chandail noir à manches longues avec du sang dessus. Après analyse, on peut confirmer que le sang, c'est celui de Bill et d'Hélène Régis. Oh. Et on retrouve aussi des résidus d'armes à feu. Donc là, il n'y a pas de doute, on l'a le gars. T'sais.
Il n'est pas loin. Il
faut juste le trouver. Et là, ces informations-là, tout ce que je viens de te dire, c'est connu de la police de l'Ontario par rapport à J.C. Emerson.
Ouais.
Mais elle ne communique pas avec la police du Québec, même s'ils sont à 4 secondes de la frontière.
Colin.
Ce que je trouve vraiment weird.
C'est en quelle
année?
Mais
pas surprenant. En 2007.
Oh my God.
Mais c'est avoue vrai? Que c'est pas surprenant. C'est pas la première fois qu'on entend que les provinces et territoires se parlent pas.
Ouais. Au Canada. Les corps de police se parlent pas. Les territoires, les provinces se parlent pas.
Non.
Ça fait très bon cop, bad cop.
C'est vrai. Il y a donc pas le lien qui peut se tisser entre les cambriolages à Portage du Fort et le meurtrier ontarien en cavale.
Ah.
Il n'y a pas de lien qui se sent ces deux informations-là, tu sais. Il y a toutefois un pamphlet, ça a l'air, qui circule en Outaouais à ce moment-là, avec la description d'Emerson qui dit de faire attention parce qu'il y a un voleur dans le coin. On s'entend qu'il ne savait pas que c'était un meurtrier fugitif armé. Ce soir-là, à Portage du Fort, Doug, lui, il fait du barbecue tranquille chez eux. Puis là, son voisin Dale, il débarque chez eux en panique. Là, Dale, il dit qu'il est en train d'arroser les fleurs de ses voisins qui sont pas là.
Mm-hmm.
Donc, le chalet est vide. Et là, il voit la télé qui est allumée à l'intérieur.
Oh.
Fait que là, il capote. Fait que là, il va chercher Doug. Et les hommes, ils retournent et ils aperçoivent un homme avec une casquette puis un chandail à manches longues. Fait que là, ils se disent, c'est le cambrioleur. Mm-hmm. Donc là, ils appellent la police. Entre-temps, Emerson, il sort du chalet, une carabine à la main, puis il se rend dans le bois. Ce que Doug et Dale voient.
Ils voient faire. Okay. Oui.
Donc là, la SQ arrive, commence à fouiller la forêt. Et là, ils savent que l'homme qu'ils recherchent est armé.
Mm-hmm.
Mais ils savent toujours pas que c'est un meurtrier
dangereux. À quel point il est dangereux. Là. C'est ça. Puis qu'il n'y a plus rien à perdre.
Et là, la police du Québec, bravo, il contacte la police de l'Ontario.
Yeah, good job!
Ce qui est un bon move. Et là, eux, ils font comme, hey, on pense.
By the way,
il y a ça. Je sais pas, j'imagine la conversation ou genre, comment la communication s'est faite. Genre, ah, oh, by the way, oui, c'est vrai, on a un meurtrier dangereux dans ton coin.
Ah, ça vous tendait pas de nous
dire? C'est ça. Ben, je l'ai trouvé, je pense. Bref, donc là, vu qu'ils savent à qui ils ont affaire, la police de l'OPP, le Ontario Police.
Provincial Police.
Oui, ça. Ils arrivent donc avec des hélicoptères, des dizaines d'agents, des chiens policiers sont prêts. Sûrement que la SQ était genre deux dudes. C'est genre, c'est ça qu'ils savaient pas, là. Donc, ils finissent par trouver et encercler Jesse Emerson, 22 ans, qui se rend sans faire de scène.
Okay.
Et là, ils le mettent dans une fourgonnette de transport. Puis Emerson est assis et il y a un autre détenu à côté de lui. Et là, il jase. Ce qu'il sait pas, c'est que l'autre détenu, en
c'était
guillemets,
un policier.
C'était un policier, non,
of course.
Qui est une tactique vraiment connue.
Oui.
Puis là, il dit, ah oh ouais, ça a l'air de tuer un gars, nanana. Puis il dit, ouais, mais je regrette pas l'avoir tué parce qu'il était gay. Puis il ajoute que si c'était à refaire, il le referait. Fait que, tu sais, en plus de tous les indices, il y a même un aveu.
Mm-hmm.
Donc là, tu sais. Jesse Emerson est donc inculpé du meurtre au premier degré de Carlos Rivera et de deux autres chefs d'accusation pour les meurtres au premier degré de Bill et d'Hélène Régis. Donc là, il est emprisonné en attendant son procès.
Oui.
Et pendant tout ce temps-là, il refuse de plaider coupable du meurtre au premier degré. Lui, dans sa tête, c'était tout pas planifié, c'était tout du second degré.
Okay.
Donc là, entre-temps, la couronne, elle abandonne les accusations de vol dans les chalets, parce qu'ils vont se concentrer juste sur les meurtres, parce que le gars, il s'en va en prison. Anyways. Emerson, il finit par accepter de plaider coupable à trois chefs d'accusation de meurtre au second degré.
Mm-hmm.
En septembre 2008, l'audience de détermination de la peine commence. Elle se tient à Goderich, en Ontario, en bordure du lac Huron. Et c'est là qu'on entend pour la première fois la version des faits de Jesse Armisen sur le meurtre de Carlos Rivera.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa version, c'est pas la
vérité. Ma partie préférée de l'histoire s'en vient. Il raconte qu'après la fermeture du bar ce soir-là, Carlos et lui sont montés à bord de la Honda Civic de Carlos, mais il dit que c'est Carlos qui conduisait parce que lui, il était trop chaud. Okay. Il avait trop bu. Et là, arrivé à la maison de relais, à Messen, il s'est évanoui parce qu'il avait trop bu.
Okay.
Et lorsqu'il s'est réveillé, il était couché dans son lit, les pantalons baissés, puis Carlos y était en train de lui faire une fellation sans son consentement.
Okay.
Ça l'a tellement fâché qu'il a pris sa ceinture puis l'a étranglé. Ça, c'est sa version des faits, OK? Uh-huh. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense de provocation, qui est souvent appelée le panique gay ou la défense de la panique homosexuelle.
Ah oui.
Tu connais-tu ça?
Oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est genre, ah, j'ai comme... C'est moins pire, je l'ai tué parce que j'ai eu peur parce qu'il était gay.
Exact. Genre, c'est carrément ça. Donc là, je te fais un petit cours de panique gay 101.
Oui.
C'est une vieille stratégie juridique qui est utilisée dans certains procès, surtout pour des accusations de meurtre ou de voies de fait graves. L'accusé prétend avoir réagi violemment sous le coup d'une « provocation soudaine », entre guillemets, causée par une avance sexuelle non désirée de la part d'une personne du même sexe. L'idée, c'est que cette « panique », entre guillemets, cause une perte de contrôle menant à une agression ou à un homicide. Pourquoi ça, c'est controversé? De un, ça renforce les stéréotypes homophobes.
Mm-hmm.
De deux, ça blâme la victime pour sa propre agression ou son propre meurtre.
Mm-hmm.
Et trois, ça permet à certains accusés de réduire leur peine comme de passer d'un meurtre à homicide involontaire, mettons.
Mm-hmm.
Ce qui est arrivé dans le passé. Est-ce que c'est légal tout ça? Au Canada, mais oui. Ça existe toujours dans le code criminel, c'est l'article 232, mais ça justifie pas un meurtre. Ça permet juste de réduire une sentence à un homicide involontaire.
Mais c'est encore dans le code criminel.
Il y a l'Australie qui a aboli ça, puis trois États aux États-Unis, dont la Californie et les deux autres que j'ai oubliés. Sinon, partout dans le monde, c'est pas mal encore d'actualité, cette défense-là, qui, selon moi, est ridicule.
C'est complètement ridicule.
Et là, le tribunal a comme de la misère à avaler l'histoire, cette version des faits-là. Pourquoi? Entre autres parce que le sperme d'Emerson a été trouvé dans la bouche de Carlos puis sur sa chemise.
Ah.
Fait qu'il est venu. En ce qui concerne les meurtres de Bill et d'Hélène Régier, Emerson dit qu'il n'avait aucunement l'intention de les tuer lorsqu'il s'est rendu à leur ferme. Il était juste au mauvais endroit, c'est-à-dire chez eux.
Ouais.
Au mauvais moment, selon lui. Il était chez eux. Tu veux qu'il soit où? Donc, Jesse Armisen est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, c'est-à-dire en 2032. Et là, on pense que c'est la fin.
Oui.
Mais non!
Non! Voyons.
En 2011, Armisen, il ressort avec une nouvelle information. Okay? Là, il intente une action en justice au civil parce qu'il dit que il a été victime d'abus sexuels de la part d'un ancien enseignant de Maryvale, le centre où il était. Ouais. Et c'est l'établissement pour jeunes en difficulté qu'il a fréquenté pendant 6 mois à l'âge de 11 ans. Mais ce n'est pas tout. Il dit aussi qu'il a été abusé sexuellement pendant des mois par un prêtre catholique, le père Howarth, pendant qu'il était dans une famille d'accueil, après avoir quitté Maryvale. Et là, ça, ce serait les raisons pour lesquelles il a des traumas. Ceci explique cela, selon lui. Donc, Emerson poursuit le Maryvale Children's Mental Health Treatment Center et l'archidiocèse catholique, c'est difficile, hein? L'archidiocèse catholique de London, Ontario, pour obtenir des dommages et intérêts.
Okay.
Il veut de l'argent.
Mais tu sais, quand même très plausible qu'il se soit fait agresser, malheureusement, dans ça. Mais...
Je t'en parle.
OK.
Le procès se déroule devant le jury en septembre 2016. L'ancien employé de Maryvale vient témoigner, puis lui, il nie toutes les accusations. Il dit que ça ne s'est pas passé. Pour ce qui est du père Howarth, il est décédé à ce moment-là.
Ah, okay.
Mais il y a un autre prêtre qui vient témoigner au nom de l'archidiocèse. Il y a un autre témoignage aussi qui est fait par le Dr. Kerry Smith, qui est un psychologue qui a traité Emerson en prison pendant 3 ans. Il donne son opinion à savoir s'il pense que les agressions sexuelles ont vraiment eu lieu.
Mm-hmm.
Le Dr. Smith, il lit donc des extraits de ses rapports écrits pendant les séances qu'ils ont eues. Et lui, il établit un lien de causalité entre les allégations d'agression sexuelle d'Emerson et les 3 meurtres. Entre autres, il dit que la version d'Emerson selon laquelle il s'est réveillé en panique lorsqu'il a vu que Carlos lui faisait une fellation est très plausible, puisque ça s'est produit sans son consentement. Ça aurait ravivé des souvenirs comme des anciennes agressions, ce pourquoi il aurait agi avec autant de rage et pas aucun contrôle.
OK.
Ça, c'est sa théorie à lui. Okay. Et là, les avocats de Maryvale soutiennent que le rapport du Dr. Smith il dépasse le cadre de son expertise puis que ça ne devrait même pas être admis comme preuve. Mais le juge n'y est pas d'accord. Donc, le verdict, le jury conclut que l'accusé a bien été agressé sexuellement par l'ancien employé de Maryvale, puis il le condamne à lui verser 225 000 $ de dommages et intérêts, en plus de 175 000 $ de frais légaux. Pour ce qui est du père Howarth, le jury rejette la plainte. Donc, il dit qu'il n'a pas agressé. Et Emerson doit donc payer à l'Église catholique leurs frais légaux à eux qui s'élèvent à 125 000 $. Toujours pas fini.
Okay.
En 2018, Maryvale il fait appel du verdict parce qu'ils disent que le juge a permis au Dr. Smith de dépasser largement le cadre de son expertise.
Mm-hmm.
Ils disent qu'il n'avait pas les compétences pour fournir son opinion sur les agressions sexuelles. Ce qui est quand même vrai.
Ouais.
Parce que lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que toutes ces informations et ces rapports sont juste strictement basés sur ses rencontres avec l'accusé, le patient, Emerson. Mm-hmm. Il n'a pas parlé à personne d'autre. Il n'a pas parlé à ses proches, sa famille. Mm-hmm. Il n'a pas vu les résultats de Maryvale, genre ses résultats académiques ou whatever. Il n'a rien vu d'autre. C'est tout basé sur
ce que lui a dit.
Ce que lui dit. Puis le gars, c'est un psychologue à la base. Fait que tu peux pas dire, moi, parce que je suis un psychologue, je pense que ce qu'il dit, c'est vrai, puis je pense qu'il s'est fait agresser. T'sais. Ça n'a comme pas de sens.
Mm-hmm.
Donc, la Cour d'appel de l'Ontario statue en 2018 que les opinions de Dr. Smith ne constituent pas un témoignage d'expert, puis que le juge a commis une erreur en permettant qu'elle soit entendue et admise comme preuve, tous les rapports. Donc, le tribunal a ordonné un nouveau procès entre Emerson et Maryvale. En mai 2019, Emerson y a fait appel de cette décision-là, mais la Cour suprême du Canada a rejeté son appel sans donner de raison, ce qui est quand même courant comme pratique. Et on n'a pas d'autres nouvelles depuis ce moment-là.
Okay.
Donc, on ne sait pas quand va avoir lieu le procès entre Emerson et Maryvale, si, ou s'il y a déjà eu lieu, il n'y a aucune information. Mais d'après moi, il n'y a pas encore eu lieu.
Okay.
Donc, à suivre.
Puis ça, c'était au civil?
Okay. Oui.
Ouais.
Okay. Donc, voilà.
Ça finit là-dessus.
Ça finit là-dessus.
Hey, OK.
C'est weird, hein? C'est une histoire un peu plus douce.
Ben,
mais quand même. Mais c'est parce que ce qui est frustrant là-dedans, c'est que il n'y a aucun motif pour avoir tué 3 personnes.
Non, c'est ça.
Pas que ça justifie rien, mais genre, what the...
Ouais, pourquoi? Pourquoi il a tué Carlos?
La panique gay.
Mais c'était peut-être genre une affaire de gay refoulé, là, genre...
Ben, c'est ça qu'il y a d'autres experts qui parlent puis qui disent, là.
Une expérience homosexuelle, puis là, après ça, il a fait genre, ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas gay, puis il l'a tué.
C'est
genre.
Ça que les autres experts, ils disent.
Je suis une experte pour ça. Que je dis la même chose.
T'aurais dû aller témoigner.
Mais c'est comme la seule chose que je vois. Parce que, tu sais, il avait pas tué avant, c'était pas prévu. C'est...
Non. Il y a rien qui était prévu là-dedans.
Mm.
C'est ça qui me fait capoter. Genre, les deux de 70 ans.
Oh.
Attache-le en bas, puis laisse-le là.
Oui, oui.
Tu vas te faire pogner anyways. Tout le monde t'a vu.
Oui, oui.
Tout le monde.
Puis là, je comprends mieux pourquoi la mère et la fille se sont fait ramasser après, parce que...
Parce que ça aurait évité la mort des régies.
Oui, c'est ça.
S'ils avaient appelé la police.
Oui.
Et ils se sont fait ramasser, là.
Ouais.
Tout le monde était fâché.
Ouais, je comprends pas pourquoi.
Une chance que la jeune fille, elle a regretté puis qu'elle a appelé
Crimestoppers
parce que...
Mm.
Voilà. C'était l'histoire un peu plus douce. Je peux te dire douce?
Non, pas douce. J'ai pas trouvé ça doux.
Peut-être parce que je travaille en ce moment sur une autre histoire qui est vraiment atroce.
C'est peut-être pour ça. Puis que la dernière puis que la j'ai faite, c'était quand même une affaire de bébé, là. Fait que, ouais. Quand on se compare, on se console.
Bonne semaine, tout le monde. Merci de nous écouter.
Oui.
À la bine prochaine.
À la bine prochaine.
Bye.
Bye. Crime de bine est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou. Bye.
Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90 exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.